Louise Michel, à mes frères. Anthologie de textes poétiques et politiques. Édition établie par Éric Fournier. Introduction. Retrouvez Louise Michel, la grande citoyenne. Ni Vierge Rouge, ni Panthéon. En 2013, un appel féministe à la panthéonisation de Louise Michel est favorablement considéré par le gouvernement dit socialiste d'alors, étonnamment sensible à l'aura de celle qui est aussi restée dans les mémoires comme la Vierge Rouge. Telle est la présence contemporaine de Louise Michel, encombrée de clichés, ordonnée par des images a priori antinomiques, la passionnaria révolutionnaire d'un côté, l'institutrice dévouée de l'autre. Pourtant, une telle association n'est pas si incongrue. À sa mort, en 1905, Jules Claretti compose une épitaphe comparable, soulignant le trouble de cet académicien fort conservateur face à cette figure inclassable. Bonne jusqu'à l'abnégation, révoltée jusqu'au coup de feu, mystique et douloureuse, un être tout amour et qui déchaînait les colères. Mais ne nous y trompons pas. Ces deux motifs ordonnant la mémoire et la présence de Louise Michel sont réducteurs, empreints de violentes assignations de genre, la révolutionnaire hystérique et la figure maternelle, et œuvrent, sous couvert d'un hommage ambigu, à neutraliser aujourd'hui encore l'une des révolutionnaires les plus déterminées du XIXe siècle. Que ce soit par les velléités de panthéonisation pour l'enrôler au service d'une république toujours déjà consensuelle, ou par sa présence furtive dans les programmes d'histoire de première générale à venir. Les enseignants sont en effet invités à traiter rapidement du point suivant, 1871, Louise Michel pendant la Commune de Paris. Ce rôle de figuration dans les programmes d'histoire les plus conservateurs depuis des décennies traduit le regard des élites sur Louise Michel. Une figure révolutionnaire haute en couleur, encore troublante, mais neutralisable. De quoi Louise Michel est-elle le nom ? Il importe donc de retrouver la subversion intraitable et parfois joyeuse de celle que ses camarades n'appellent presque jamais la Vierge Rouge avant sa mort. Ce sobriquet, forgé en 1881, est plébiscité par la presse de l'ordre qui peut aussi faire plus violent encore ou à l'occasion trouver des formules heureuses telle la furie de la fraternité qui, nous le verrons, s'accorde assez bien à ce qui anime son engagement. Pour la constellation révolutionnaire de la Troisième République, Louise Michel est la Minerve populaire, plus grande qu'un homme, notre Jeanne d'Arc à tous et surtout, unanimement, la grande citoyenne. Si la Vierge Rouge est une violente assignation de genre, tous ces autres surnoms troublent assurément la domination masculine. Arrêtons-nous un instant sur le premier d'entre eux, en n'oubliant pas que le XIXe siècle croit, avec une intensité que nous peinerions à comprendre aujourd'hui, à la force performative des mots, à leur accomplissement. Depuis 1789, l'appellatif « citoyenne » est conquis par des femmes en lutte, entendant exercer leur part de souveraineté sans attendre un cadre légal. Citoyenne efface tout lien de dépendance au père ou au mari et rattache directement à une communauté civique. De surcroît, ce titre renvoie avec force, pour les révolutionnaires, à la République démocratique et sociale, celle de 1792 ou 1871, où les citoyens exercent le plus directement possible leur part de souveraineté en un questionnement libertaire de la démocratie selon la lumineuse analyse de Jacques Rougerie. À l'égal de république ou de commune, citoyenne est jusqu'à l'aube du XXe siècle un de ces mots magiques de l'imaginaire révolutionnaire, porteur de brèches et d'accomplissements politiques mêlés. Louise Michel incarne tout ceci à son paroxysme. Mais comment se désigne-t-elle ? Comme une citoyenne, bien sûr, et ce, dès ses premières prises de position publique. Mais l'image la plus convoquée par elle-même semble à notre sens celle du spectre, soulignant ainsi son inlassable détermination et son aura militante. Emprisonnée à Versailles en 1871, elle compose le poème « À mes frères », dans lequel elle devient un spectre vengeur. Elle relève donc de ces spectres qui hantent l'Europe, pour reprendre l'incipit du manifeste du Parti communiste, référence éclairant à quel point ces figures gothiques sont un motif important de l'imaginaire révolutionnaire du XIXe siècle, et non une lubie de Louise Michel. Le spectre traduit de façon imagée l'idée invincible, qui ne peut mourir et qui reviendra hanter le présent jusqu'à ce que s'accomplissent les promesses non tenues du passé, celles de toutes les révolutions vaincues. Et aussi, évidemment, jusqu'à ce que justice soit faite, comme le jure Louise Michel à la mort de Victor Noir en 1870. Depuis cette date, des présences spectrales renforcent celle qui s'habille en noir sa vie durant. La semaine sanglante achève sa transformation en âme errante, animée par l'appel des morts, de Théophile Ferré en premier lieu, un de ses intimes, cristallisant son intraitable engagement, son oubli d'elle-même allant jusqu'à l'aspiration au sacrifice. « Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi », lance-t-elle face à ses juges versaillais. Ce faisant, elle devient une figure de premier plan de la commune vaincue. Le spectre porte aussi au plus haut une némésis irriguant nombre de ses interventions publiques, ses premières conférences du retour d'exil notamment. Mais cette figure spectrale n'épuise ni l'engagement, ni le charisme de Louise Michel. En toute chose, elle recherche la beauté du monde et de la lutte en une quête romantique qui, de son temps, était déjà anachronique, mais manifestement encore efficace. La grande citoyenne est aussi une sœur de charité, empreinte d'une très forte compassion, attestée entre autres par sa correspondance avec Lucas, qui attend à ses jours au Havre en 1888, échouant à la tuer, mais la blessant à la tête d'une balle de revolver que les médecins échoueront à extraire. Non seulement Louise Michel lui pardonne, mais entretient une correspondance avec lui et sa famille. Seuls les dominants et leurs sbires sont exclus de sa grande générosité. Cette bonté l'amène même à quelques liaisons politiquement dangereuses. Indéfectible amie du polémiste Rochefort, rencontrée sur le bateau de la déportation, elle se moque que celui-ci ait basculé à l'extrême droite lors de la crise boulangiste. Enfin, Louise Michel, dans sa volonté d'enchanter un univers ordonné par la lutte, peut se révéler espiègle et douée d'un sens de l'humour très décalé, incongru et jubilatoire, souligné dans ce recueil par le concert éphémère donné dans Neuilly en ruine pendant le bombardement versaillais. Une nouvelle anthologie. Proposer une anthologie politique de Louise Michel ne va pas de soi. En premier lieu, procéder à une sélection pourrait sembler vain, au regard de la production aussi immense que diverse, de celles qui, inlassablement, ne cessent de prendre la parole dans l'espace public comme autant d'effractions dans le domaine des hommes, ou plus précisément dans un domaine construit comme de plus en plus exclusivement masculin au fil du XIXe siècle. Toutes les formes d'expression sont en conséquence investies. Une riche correspondance publique, des controverses par voie de presse, des poèmes, des romans, des pièces de théâtre, des manifestes, des essais, des mémoires et des conférences. En second lieu, son œuvre est régulièrement l'objet de rééditions ou d'anthologies diverses, à un rythme régulier depuis les années 1970. Ainsi s'établit et se cartographie peu à peu la dense production discursive d'une Louise Michel frénétique jusque dans ses manuscrits, dynamitant au passage le cliché de l'institutrice appliquée, ce qui ne facilite pas l'établissement du texte, pas plus que les nombreuses rééditions quelquefois fautives de ses principaux textes, sans compter ceux qui lui sont attribués à tort. Enfin, des textes inédits peuvent être exhumés. Parallèlement, au fur et à mesure que se dévoile l'œuvre de la Minerve populaire, des anthologies plus courtes, parfois hâtives, sont proposées à la vente, visant un public moins intéressé par l'exploration du massif des œuvres que par l'énergie subversive émanant de ces morceaux choisis. Néanmoins, les précédentes anthologies ou éditions de textes ont eu tendance à cloisonner la richesse d'une parole révolutionnaire variée, en sélectionnant des formats, poésie, roman, manifeste, essai, et ou en privilégiant soit le caractère littéraire, soit la dimension politique. Afin de restituer, autant que faire se peut, l'intensité et la diversité de l'engagement de Louise Michel, nous avons pour notre part sélectionné des textes courts montrant la grande citoyenne en action, sans privilégier une forme d'expression précise. Ce livre propose en conséquence des extraits des œuvres les plus connues de Louise Michel, ses mémoires et la commune essentiellement, quelques poèmes également, mais il s'attache tout autant à exhumer des textes méconnus, sinon inédits. Certains ont été publiés dans la presse, avant de sombrer dans l'oubli, consignés fort heureusement dans de denses archives policières. D'autres sont totalement inédits, jamais édités malgré leur importance fondamentale. Les conférences de Louise Michel, peut-être sa principale activité militante à son retour d'exil. Hic sunt leones. Certaines ne nous sont connues que par une trace unique, articles de journal, rapports de surveillance, mais d'autres nous sont accessibles par plusieurs coupures de presse et des rapports policiers. En l'absence de notes manuscrites de la main même de Louise Michel, on peut donc quand même restituer, autant que faire se peut, quelques discours, et non des moindres, telles les deux premières conférences à son retour d'exil. Élaborer une anthologie oblige à assumer des choix. Notre propos est de mettre en évidence la grande citoyenne comme exemple de détermination révolutionnaire. De donner à voir une Louise Michel au présent, mobilisable aujourd'hui, opposable aux récupérations lénifiantes. En conséquence, ont été écartés certains textes qui, quelle que soit leur force, nous apparaissent comme définitivement anachroniques, sinon illisibles. Le lecteur pourrait ainsi s'étonner de ne pas trouver plus de textes anticolonialistes ou féministes. Concernant les premiers, Louise Michel en a assez peu écrit, préférant de vastes fresques assemblant les révoltes du monde entier. Et ceux-ci sont aujourd'hui souvent inaudibles, tels la défense de Canax, finalement relative et les assimilant peu ou prou à des bons sauvages. D'autres interventions ont sombré dans l'oubli, telles la tournée de conférences en Algérie peu avant sa mort, dont les détails ne sont pas encore connus. Relativement au féminisme, force est de constater que Louise Michel a déconstruit les normes du genre par ses actes, plus que par une réflexion discursive, somme toute restreinte. Pour ordonner cette sélection, et pour aborder le monde à la manière de Louise Michel, ce livre préfère une approche thématique. La commune, les femmes, l'internationalisme, l'anarchisme. Plus qu'un strict déroulé chronologique qui aurait paru artificiel à Louise Michel elle-même. Le temps, construit comme une arme révolutionnaire, irrigue pourtant son œuvre. Comme la plupart de ses contemporains, elle croit en des horizons radieux et inexorables. Mais loin d'être un temps linéaire, il s'agit ici d'un temps maelstrom, d'un temps tempête, où coagulent passé, présent et futur, un temps définitivement spectral, tant l'historicité tempétueuse façonnée par Louise Michel est résolument ordonnée par des revenants rebelles. Enfin, après avoir présenté sa personnalité dans l'action, entre abnégation et compassion, vengeance et espérance, cette anthologie se conclut par quelques regards admiratifs sur Louise Michel, des Gloire, Hugo, Verlaine, aux anonymes, pour saisir ce qui faisait de la grande citoyenne une figure si mobilisatrice. Car si la plupart de ses combats sont aujourd'hui révolus, mais pas tous, si son rapport au monde, son style et même son espièglerie sont anachroniques, son énergie et sa détermination demeurent, irréductiblement. Éric Fournier.